Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Bonjour et bienvenue à cet épisode de En action. Mon nom, c'est Daniel Rioux, kinésiologue, animateur de ce podcast sur la santé. Donc, dans En action, on parle de santé physique, on parle de santé mentale, de santé en entreprise, mais toujours de santé. Puis on reçoit des professionnels de la santé pour en discuter. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez mettre un petit pouce si vous regardez sur Facebook ou YouTube. Si vous êtes, vous écoutez ça sur une plateforme de podcast, ben laissez-nous un petit commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Aujourd'hui, on rencontre Jean-François Esculier, qui est leader recherche et développement à la Clinique du coureur, qui est aussi professeur adjoint à l'Université de Colombie-Britannique, qui est physiothérapeute aussi. Il y a beaucoup de titres, Jean-François. Bonjour.
Salut Daniel, merci de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait plaisir d'être là.
Ben, merci beaucoup à toi. Jean-François, tu es un expert, on pourrait dire, de niveau international, notamment sur les blessures reliées à la course à pied, mais aussi sur le genou. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à t'intéresser comme ça à ce sujet-là?
Oui, ben en fait, quand j'ai commencé à travailler comme physiothérapeute en 2009, je voyais beaucoup, beaucoup de coureurs à la clinique. Puis, en fait, presque la majorité des gens que je voyais venaient avec des blessures aux genoux. Donc, ça m'a vraiment intrigué. Puis, je cherchais dans la littérature des façons d'aider ces patients-là de la meilleure façon possible. Puis, je ne trouvais pas nécessairement les réponses que je voulais. Donc, j'ai décidé de m'impliquer dans la recherche sur les douleurs aux genoux, comment aider les gens le mieux possible, mais aussi comment expliquer l'apparition de certaines blessures. Donc, c'est ça un peu ça qui m'a amené.
Cool. Fait que, vous venez de sortir avec ton groupe, les groupes avec lesquels tu fais de la recherche, des papiers qui sont vraiment intéressants. Un notamment sur les cartilages et la course à pied. Peux-tu nous parler un petit peu des résultats que vous avez trouvés?
Oui, en fait, ça fait partie aussi des trucs que j'entends très souvent puis que j'entendais très souvent dès le départ. On entend souvent que la course, c'est mauvais pour les articulations. Donc, c'est un peu ce qu'on cherchait à aller explorer avec cette revue de littérature-là. Donc, notre question, c'était, c'est quoi les effets de la course à pied sur les articulations du membre inférieur? Donc, on parle de hanches, de genoux, de chevilles, de pieds. Ce qu'on a évalué finalement, c'est qu'on a lu tous les articles qui allaient explorer les effets de la course sur les articulations, mais avec une imagerie par résonance magnétique. Donc, finalement, c'est les études qui te font passer un IRM, qui t'envoie courir, puis qui repasse un autre IRM après, puis qui essaie de voir finalement comment ton cartilage, comment tes articulations réagissent à la course à pied. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que, c'est sûr que si tu fais un IRM immédiatement après la course, tu vas remarquer que ton cartilage il est un petit peu plus comprimé. Donc, c'est comme si en mettant de l'impact dessus à répétition, tu vas chasser l'eau qui est dans ton cartilage hors du cartilage. Donc, ton cartilage s'amincit un peu après la course. Mais si tu attends un peu, tu attends une heure, tu attends un peu plus longtemps, l'eau revient. Puis le cartilage, il récupère, puis il retourne à son état normal. Puis, donc ça, c'est une des trouvailles de notre article, c'est que le cartilage, en fait, il est fait pour tolérer les impacts de la course à pied. Donc, ce n'est pas un effet néfaste de voir que le cartilage est un peu aminci après la course, parce que ça se rétablit assez rapidement après. Donc, ça, c'est l'effet immédiat. Mais on a aussi, qu'est-ce qui arrive si tu fais un programme de course? Donc, tu cours pendant quelques semaines ou même quelques mois ou quelques années. Ce qu'on a trouvé, les résultats principaux, c'est qu'il n'y a pas de lésion du cartilage avec un programme de course, que ce soit plusieurs semaines, mois ou années. Il n'y a pas de nouvelles lésions qui apparaissent au niveau du cartilage à cause de la course. Donc, la conclusion, c'est que la course n'est pas mauvaise pour vos articulations, que ce soit les genoux, les chevilles, les pieds. On n'a pas trouvé d'études à la hanche. Mais on se doute que c'est à peu près le même principe.
Mais si je me souviens bien, là, dans l'étude, là, on disait qu'il n'y avait pas nécessairement de détérioration de l'état du cartilage, mais on notait pas non plus d'augmentation, mettons, de la qualité là, du cartilage ou de l'épaisseur du cartilage quand on s'entraîne de façon régulière. Est-ce que je me trompe?
En fait, ça dépend des études. Il y a quelques petites études qui nous démontre qu'on peut améliorer le cartilage. La majorité, ce n'est pas vraiment ce qui évaluait dans, dans leurs études, mais on a quand même quelques études qui nous suggèrent qu'on peut l'améliorer. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est par exemple une étude qui a été faite en Belgique, qui a recruté 19 personnes qui étaient sédentaires, donc des gens qui ne faisaient pas d'activité physique, pas de course à pied. La moitié de ces gens-là ont commencé un programme de course à pied qu'ils ont fait pendant 10 semaines. Donc, un programme de débutants qui augmentait graduellement. Puis, ils ont pris un IRM chez tous ces gens-là. Donc, ceux qui restaient sédentaires, puis ceux qui ont commencé la course à pied. Puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le contenu du cartilage changeait chez les gens qui débutaient la course à pied. C'est-à-dire qu'il y avait des molécules qui étaient présentes à la fin des 10 semaines en plus grande quantité, qui s'appellent des glycosaminoglycans, qui sont en fait un type de molécule qui aide à augmenter la tolérance du cartilage à la compression. Okay. Donc, le cartilage devient plus tolérant avec même quelques semaines de programme de début de course à pied. Donc, il y a des petits morceaux ici et là qui nous disent, oui, en fait, la course, c'est probablement une bonne chose pour les articulations.
OK. Fait que c'est intéressant de... j'imagine que notre cartilage, il double pas de volume, ou c'est pas comme des muscles. Là, évidemment, ton biceps, si tu l'entraînes, devient plus gros. C'est, on voit l'effet rapidement. L'impact sur un cartilage comme celui du genou, ben, il est plus difficile à évaluer, là, en tout cas.
C'est ça. En fait, comme tu dis, Daniel, c'est que sur la musculature, un muscle, ça réagit super vite, ouais. Ça s'adapte super rapidement, puis oui, ça peut doubler de grosseur, mais un cartilage, c'est ultra lent. C'est un tissu qui est presque inerte. Là, il y a très peu d'action qui se passe dans un cartilage. Fait qu'il s'adapte, oui. Moi, j'avais appris à l'école il y a quand même quelques années là, que le cartilage, ça ne s'adaptait pas, puis qu'on pouvait juste le dégrader puis le perdre. Mais c'est pas vrai. En fait, le cartilage peut s'adapter et devenir plus tolérant sans nécessairement doubler de grosseur, mais il devient plus solide. Ouais.
Je comprends. Ce serait quoi, mettons en lien avec ça, ton conseil numéro un si on veut prendre soin de nos genoux? Moi aussi, j'ai la même observation que toi. Dans mon entourage, des gens qui courent, puis même dans d'autres sports, je pense qu'une des blessures les plus fréquentes, c'est le genou. C'est quoi les bons conseils? Faut-tu les masser? Faut-tu mettre du froid régulièrement? Faut-tu boire du 7-Up? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de nos genoux comme il faut?
Ben écoute, si tu veux masser tes genoux puis mettre de la glace, puis ça te fait du bien, vas-y, fais-le. Mais il y a rien vraiment qui nous dit d'un point de vue scientifique que ça va t'aider. Si ça t'aide psychologiquement, ben pourquoi pas. Je suis pas sûr que la glace ça soit la meilleure chose, mais pour le masser, ben garde-toi. Tu sais, je pense qu'un des points principaux, c'est vraiment de maintenir un niveau de sollicitation qui est idéal, c'est-à-dire, tu sais, je prends l'exemple au Québec, l'hiver, mettons. Tu sais, l'hiver, il y a plein de gens qui arrêtent de courir, puis ils reprennent au printemps, puis ils se blessent au genou. En fait, parce qu'ils n'ont peut-être pas utilisé leur genou assez pendant l'hiver, ce qui fait que quand ils retournent, ben là, il y a un peu une surcharge qui peut arriver. Donc, l'idéal, c'est de maintenir un certain niveau. Que ce soit, si vous arrêtez de courir l'hiver, moi, je vous conseille de continuer, mais si vous n'aimez vraiment pas ça, ben faites des exercices de renforcement. Essayez de faire des squats, essayer de faire des fentes, essayer de juste avoir un petit programme ici et là pour garder vos genoux en santé. Puis, d'un point de vue course à pied plus spécifique, si vous dites, moi, je veux continuer la course, comment je peux prendre soin de mes genoux? Ben, on sait que quand vous courez, par exemple, en montagne ou dans des descentes de côte, il y a beaucoup de charges qui vont être appliquées sur les genoux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste s'assurer d'être plus graduel dans le changement. T'sais. Donc, pas dire ben, en fin de semaine, je vais aller grimper le Mont-Sainte-Anne 4 fois de suite parce que ça me tente, puis je ne l'ai jamais fait avant. Ben, ça, ce n'est pas idéal pour vos genoux. T'sais. Donc, c'est vraiment le fait d'être progressif le plus possible, je pense, qui va aider.
OK. Puis, en dehors d'être progressif, parce que ça, c'est le mot, là, on est presque tanné là, de l'entendre, ce mot-là. À part d'être progressif, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de ça?
Pour prévenir les blessures ou pour les genoux en général?
Pour prévenir les blessures aux genoux notamment, est-ce que, mettons par exemple, la musculation, faire de la musculation de façon préventive, c'est quelque chose qui peut nous aider à prévenir les blessures? Est-ce que de répartir notre charge d'entraînement dans la semaine, c'est quelque chose qui peut nous aider? C'est quoi les facteurs qui peuvent nous aider à part d'être progressif?
Pour ton premier point, les programmes d'exercice, C'est sûr que, tu sais, moi, je donne plein d'exercices aux gens parce que je pense qu'il y a un effet qui est assez intéressant pour entretenir les structures puis s'assurer de garder notre système musculo-squelettique en santé. Si tu me demandes des études qui démontrent hors de tout doute que de faire du renforcement prévient les blessures en course à pied, ben, je vais être désolé de te dire, écoute, il n'y a rien.
Non.
Donc, on n'a pas d'étude qui a réussi à démontrer un effet de prévention des blessures avec un programme d'exercice, malheureusement. Il y en a plusieurs qui ont essayé, mais il n'y a pas de programme actuellement qui ressort comme étant bénéfique. Donc, ça, c'est une chose. Répartir son entraînement, tu disais, je pense, c'est une excellente idée, tu sais, parce que si toi, tu dis, moi, je cours le samedi, puis je cours le dimanche, puis le restant de la semaine, ben, je n'ai pas le temps, ben, je te dirais, écoute, ben, tant mieux parce que tu vas courir déjà le samedi puis le dimanche, donc félicitations pour ça. Mais si tu étais capable d'ajouter même une petite course, que ce soit 10 minutes, que ce soit 15 minutes, c'est pas obligé d'être long, mais un mardi matin puis un jeudi matin, avant de prendre ta douche puis d'aller travailler, au lieu d'être sur ton téléphone, sur Facebook, ben écoute, je pense que ton corps va mieux s'adapter au stress de la course parce que tu vas le stimuler plus souvent. Un autre conseil que j'aime bien donner, c'est de varier les surfaces aussi. Donc, tu sais, de faire un peu de sentier, de pas être toujours nécessairement sur la route, va aider finalement. C'est qu'en sentier, on varie beaucoup les directions, on varie les différents stress sur les muscles, les articulations. Ça répartit en fin de compte la charge à différents endroits du corps. Donc, je pense que c'est une stratégie intéressante aussi pour aider à réduire le risque de blessure. Finalement, il y a tout le volet récupération aussi là, qu'on pourra peut-être couvrir, mais pas trop en détail. C'est, tu sais, dors bien, assure-toi de bien récupérer après ta course. Même si ton programme te dit que tu devrais aller courir 5 km aujourd'hui, si tu ne te sens pas bien puis tu ne le sens pas, ben vas-y pas ou cours 2 km à la place, cours 3 km. Écoute ton corps est ultra important. Puis c'est pour ça que d'être progressif puis d'écouter son corps, oui, c'est plate à se faire dire tout le temps, mais c'est quand même les conseils les plus valables, je pense.
Je t'ai pas entendu parler de chaussures, Jean-François.
Ouais, ben, en fait, ouais, on va en parler si tu veux.
Non, mais je veux pas. Non, en fait, je préfère qu'on n'embarque pas dans ce sujet-là. Je pense qu'on en a assez parlé, puis dans le fond. J'ai une question plus importante encore.
Vas-y,
ben, avec ton groupe, vous avez fait une autre recherche, une revue systématique là, qui essaie de faire un lien entre les blessures sur la course à pied puis les paramètres d'entraînement. Quand on parle de paramètres d'entraînement, là, ben, tu pourras nous l'expliquer, là, tu sais, c'est volume, intensité, fréquence, etc. Puis il semble ne pas avoir un lien aussi fort que ce qu'on croyait avant. Peux-tu nous en parler un petit peu plus de cette recherche-là, puis des conclusions que tu en tires?
Oui, en fait, ben, tu sais, moi, souvent en clinique, quand j'évalue des gens qui sont blessés par la course à pied, je leur pose plein de questions. Tu sais, je leur pose la question, par exemple, as-tu récemment augmenté tes distances de course? As-tu augmenté ta vitesse? Cours-tu plus souvent qu'avant? As-tu commencé avec un nouveau club de course, puis bon, ton programme a changé, changé tes chaussures, je sais que tu veux pas parler de chaussures, mais c'est pas grave, changé ta technique de course. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le risque de blessure, puis souvent, la majorité du temps, la personne, elle a changé quelque chose. Puis ça peut être dans sa récupération aussi. Ça peut être, ben, je dors moins bien, je viens juste d'avoir un bébé, puis avant, je dormais 8 heures par nuit, maintenant, j'en dors 4. Tu sais, il y a plein de trucs qui peuvent avoir changé, mais la majorité du temps, il y a quelque chose qui a changé qui est relié à la blessure de la personne. Donc, ce qu'on voulait savoir dans le projet de recherche, c'est finalement, c'est de voir, d'après toutes les études qui ont été faites, qui ont évalué, finalement, on donne un programme d'entraînement à des coureurs, puis on les suit dans le temps, puis on essaie de voir, est-ce que ceux qui se blessent, ils se blessent à cause de leurs paramètres d'entraînement, soit parce qu'ils courent plus, soit parce qu'ils courent plus vite, soit parce qu'ils ont changé quelque chose dans leur entraînement de course. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait savoir. Puis, ça a été mené, en fait, l'auteur principal, c'est Annie Fredette, qui est physiothérapeute dans les Forces armées canadiennes, qui voit ça, elle aussi, beaucoup, évidemment, avec les militaires. Mais on a été quand même surpris des résultats, c'est-à-dire les résultats, ils sont assez contradictoires entre eux, dans le sens où il y a certaines études qui nous disent « oui, il y a un lien », d'autres études qui nous disent « non, il n'y a pas de lien ». Mais c'est difficile de statuer hors de tout doute. Par exemple, si tu cours en haut de 50 km par semaine, tu es plus à risque de blessure. Si tu fais des intervalles de vitesse, tu es plus à risque de blessure. On n'est pas capable de dire ça. Ça ne me surprend pas nécessairement parce que chaque personne est différente, puis tout le monde s'adapte à son programme d'entraînement. Mais ce qui est intéressant, c'est que les changements comme tels, ils ne ressortaient pas comme étant clairement un risque de blessure. Puis là, ça, c'est en fin de compte, le changement qui est évalué dans les études, je prends un exemple, la règle du 10 %. T'sais, on entend souvent, augmente ton entraînement de 10 % par semaine maximum pour réduire ton risque de blessure. Mais cette règle-là, elle est basée sur rien, en fait. T'sais, c'est une règle de gros bon sens qui dit 10 %, ça sonne bien. Pourquoi pas, mais il n'y a pas de recherche qui supporte cet énoncé-là. En fait, augmenter de 10 % si tu cours 10 km par semaine, ça va te prendre 7 semaines avant d'arriver à 20 km par semaine. Donc, c'est très progressif, ça peut très bien aller pour plein de gens, parfait, mais si tu cours 100 km par semaine puis tu augmentes de 10 %, tu es rendu à 110 puis 7 semaines plus tard, tu es rendu à 200. Fait qu'il y a, je pense qu'il faut être un petit peu plus critique et un peu plus individualisé que ça. Mais globalement, on n'a pas de règles spécifiques qu'on peut donner. Chaque personne est différente. C'est un peu les résultats globaux de cette étude-là, finalement.
Mais c'est drôle parce que, mettons, moi, je me serais attendu à ce que ça soit le critère numéro un qui cause les blessures. Puis c'est ce que tu dis en clinique, que tu observes. Mais dans le fond, est-ce que c'est parce que les études sont pas assez fortes? Mettons, ils n'ont pas assez un nombre de sujets assez élevé, ou est-ce que c'est parce que la définition d'une blessure n'est pas uniforme? Est-ce que c'est les limites des études qui sont problématiques, ou est-ce que c'est que dans le fond, l'impact des changements sur les blessures n'est pas aussi grand que ce qu'on pensait?
Mm-hmm. Très bonne question. En fait, c'est probablement... je pense pas que ce soit le dernier point. Là, je pense que c'est surtout... dans les études, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de points à améliorer. Tu parlais de la définition d'une blessure, ça, c'est un gros point. T'sais, si tu demandes à trois personnes différentes, c'est quoi pour toi être blessé en course à pied? Il y en a un qui va te dire, pour moi, c'est quand je peux pas courir du tout. Puis le deuxième va te dire, moi, c'est quand j'ai mal à 5 sur 10. Puis l'autre va te dire, c'est quand j'ai mal à 1 sur 10. Pour moi, c'est une blessure. Mm-hmm. Fait que c'est très variable. Donc, il y a ça déjà dans les études qui est pas uniforme, qui est pas standardisé, qui limite à quel point on peut avoir des conclusions solides selon ce qui existe. Puis il y a aussi, évidemment, l'aspect interaction entre les variables, puis quelles variables sont vraiment évaluées dans les études. Puis je parlais tout à l'heure des charges d'entraînement, mais aussi de la récupération. Puis, tu sais, moi, ce que ça m'amène à dire, c'est peut-être que toi, je sais pas, pour le prochain mois, augmenter de 10 % par semaine, ça peut très bien fonctionner, mais qu'après, pour peu importe la raison, tu as changé de travail, tu es plus stressé, tu dors moins bien, tu récupères moins bien, ton 10 % tu ne seras pas capable de bien le tolérer. Puis peut-être que ça va t'amener à une blessure. Tu sais, puis je pense que c'est ça le point qui manque beaucoup dans les études, c'est l'interaction entre les paramètres d'entraînement et la vie. Parce que la vie, il y a plein de choses qui se passent. donc, je pense qu'il faut considérer un peu tout ça. Mais cliniquement, ce que je vois, oui, tu sais, il semble avoir un lien assez clair avec les paramètres d'entraînement, mais on n'est pas capable de le déterminer avec ce qui a été étudié jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça... Ça clarifie un peu mon point, là.
Je comprends. Je comprends. Ça m'amène à une autre question. Là, je me souviens d'avoir vu dans les formations que vous donnez à la clinique du coureur, là, mettons, la fameuse slide où est-ce qu'on dit, sur tout le risque de blessure, mettons, il y en a 80 % que c'est la charge d'entraînement, 10 % c'est des facteurs internes, puis 10 % c'est des facteurs externes. Est-ce que cette recherche-là, ça t'amène à remettre ces chiffres-là en question? On se comprend, là, tu sais, c'est pas des chiffres qui étaient coulés dans le béton, c'était une approximation, je le comprends, je le conçois bien, puis le but, c'est pas de vous mettre dans l'eau chaude en lien avec ça, mais est-ce que ça t'amène à dire que, mettons, des facteurs comme justement le stress, le manque de sommeil, etc., ont peut-être un plus gros impact que ce qu'on pensait?
Oui, peut-être. T'sais, est-ce que le 80 % est haut? Peut-être qu'il est haut. Est-ce que c'est 60 % Est-ce que c'est 70 % écoute, je sais pas, je peux pas dire, mais assurément que c'est peut-être le volet qui est le plus facile à évaluer, si on veut. Encore là, même, ça peut être un peu touché là, avec comme les appareils pour mesurer objectivement ou non. Tu sais, si tu as une montre versus si tu n'as pas de montre, est-ce que tu as vraiment fait ton programme versus si tu ne l'as pas fait? Mais tu sais, en gros, je crois que c'est le facteur le plus facile sur lequel on peut jouer, mais il ne faut pas oublier l'interaction avec le reste. Donc, est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 60, 70, je ne sais pas. Je pense quand même que c'est en haut de 50, tu sais, pour la majorité. Mais l'interaction, comme tu dis, je pense que ces autres facteurs-là jouent un rôle très, très important. Tu sais, il reste que si tu as couru 20 km par semaine ou 30 km par semaine, peu importe, depuis 10 ans, puis tu n'as rien changé, ton risque de blessure, il est très, très bas. Tu sais, la majorité des gens, quand même, quand ils se blessent, c'est parce qu'ils ont augmenté, ils sont entraînés pour un événement, ils ont changé quelque chose. Donc ça reste valable, je pense. Mais comme tu dis, peut-être que l'influence des autres facteurs est un peu sous-estimée actuellement selon les données qu'on a.
Puis, en fait, moi, un autre truc qui m'a surpris, là, si on veut, c'est que, dans le fond, il semblait là, que les coureurs débutants se blessaient moins que les coureurs récréatifs. Puis, mettons, il y avait une autre cohorte qui était les coureurs compétitifs qui, eux, se blessent le plus souvent. Ça, pour moi, ça tombe sous le sens. Quand tu es compétitif, tu veux pousser ton corps. Puis, dans le fond, la limite en course à pied, ben, tu peux toujours courir un petit peu plus. Il n'y a pas de composante technique vraiment à travailler. Fait que tout ce que tu vas faire, c'est plus de répétitions, plus de répétitions, plus de répétitions ou plus de répétitions plus vite. Fait que ça, pour moi, ça a du sens que les coureurs compétitifs se blessent plus souvent. Mais je trouvais ça surprenant que les débutants se blessent moins souvent que les coureurs récréatifs. Peux-tu peut-être élaborer un petit peu sur ce point-là?
Oui. En fait, les données que nous, on rapporte dans l'article, c'est ce qu'on appelle, on les a traitées comme des événements, c'est-à-dire dans un programme de course, combien vont se blesser. Il y avait des programmes de course qui étaient 6 semaines pour débutants, il y en a qui étaient jusqu'à 24 mois pour des compétitifs. Donc, le taux de blessure est relié à combien de gens se sont blessés pendant cette étude-là. Mais si on mettait ces données-là en termes de blessures par centaines d'heures de course ou par 1000 heures de course, là, on arriverait probablement à des chiffres qui sont relativement similaires ou même peut-être plus élevés chez les débutants. Donc, tu sais, ça dépend un peu de comment tu analyses tes données, mais tu sais, oui, le compétitif, ben, il va être un petit peu plus à côté, si on veut, avec sa capacité maximale, il va avoir tendance à pousser un petit peu plus sur son intensité, sur son volume. Donc, il y a peut-être un risque un peu plus élevé, mais en même temps, il court tellement plus que si tu comptes ben, combien se sont blessés dans une période donnée, ça se peut que tu aies plus de blessures chez le compétitif. Là. Ouais.
Je comprends. Mettons qu'on prend l'étude dans son ensemble, là, toi, ça ne fait pas remettre ta pratique, là, mettons, ça ne va pas changer de façon radicale ton processus clinique puis ton évaluation des cas. Ça va rester sensiblement pareil, mais dans le fond, est-ce qu'une des conclusions principales, c'est qu'on a besoin de meilleures études pour évaluer qu'est-ce qui influence les blessures en course à pied?
Oui, tout à fait. Tu sais, comme tu dis, je pense que tu le résumes bien, ça ne changera pas tellement ma façon de pratiquer parce que c'est, tu sais, avec les années, on développe une méthode qui, je pense, vient assez bien capturer les variables principales, mais c'est vraiment dans les études, je pense qu'il faut être meilleur, tu sais, puis je parle aussi pour notre groupe de recherche dans lequel je participe, tu sais, il faut intégrer plus de variables, il faut... Il faut mesurer plus de trucs, pas juste combien les gens courent, mais aussi plein d'autres facteurs. Le sommeil, là, on a inclus 36 études dans cette revue systématique-là. Le sommeil était considéré dans 2 études seulement. Il n'y a personne qui regarde ça. C'est surprenant, mais il n'y a personne. Le cycle hormonal chez les femmes, on parle quand même de 1 étude seulement qui a évalué peut-être l'influence du cycle sur l'apparition des blessures. Il faut être meilleur, tu sais, il faut juste inclure plus de trucs pour voir l'interaction entre ces variables-là. Je pense que c'est la conclusion clé de cette étude-là.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une partie de chance ou de malchance dans se blesser? Parce que, tu sais, à un moment donné, là, il y a comme des facteurs qui vont... On ne peut pas mesurer tous les facteurs. Là. Fait que, à un moment donné, c'est une interaction entre ces facteurs-là, puis on pourrait presque dire que c'est de la chance ou de la malchance. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ben écoute, c'est sûr qu'on pourrait dire ça. En même temps, je pense quand même qu'il y a des facteurs qu'on peut contrôler. Puis, tu sais, ça passe beaucoup par l'éducation des coureurs parce que, tu sais, je disais tout à l'heure, si tu te sens pas bien une telle journée, puis que ton programme est dit 5 km, ben, tu sais, va pas courir 5 km. Tu sais, il y a ce point-là. C'est sûr que si tu dis, ben, je vais aller courir mon 5 km pareil, tu pourrais dire, je me suis blessé par malchance, mais au final, ben, tu te sentais pas bien, puis tu l'as fait pareil. Donc,
tu sais. J'essaie de déresponsabiliser les coureurs, là, c'est ça que tu me dis.
C'est ça exactement. T'sais, moi, je pense que quand on dit écoute ton corps, puis sois progressif. Oui, on est tanné de l'entendre, mais c'est vraiment ça. Pareil, les conseils clés que les gens devraient suivre. Puis, faut pas se sentir mal de dire, ben écoute, j'ai pas suivi mon programme à la lettre parce que je me sentais pas top. Puis, pour moi, les meilleurs athlètes que j'ai suivis en tant que physio dans ma carrière, c'est ceux qui sont capables d'adapter leur programme selon comment ils se sentent. Puis ça, c'est vraiment un truc clé que j'ai trouvé. Puis, tu sais, si moi, je participe à l'élaboration de leur programme, s'ils me disent, ben écoute, tu sais, je me sens un peu plus fatigué cette semaine, ben, on réduit les trucs, tu sais, on dit pas, non, ben là, ton événement, il est dans 4 semaines, puis c'est une semaine de haut volume, puis il faut que tu fasses ton volume. Non, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que, chance, malchance, peut-être, mais je pense que faut que les gens s'écoutent en majorité, puis...
Ben, tu sais, chance, malchance, là, mettons, là, on se comprend, c'est pas comme un dé, mais si, mettons, une journée, mettons, tu as mal dormi, en plus, tu as une longue sortie à faire, puis là, je sais pas, c'est un peu glacé sur le sol, tu sais, c'est comme, disons, l'accumulation de facteurs qui sont reliés à la chance, parce que la météo, tu la contrôles pas, ton sommeil, tu le contrôles pas tout le temps, etc., mais c'est l'accumulation de facteurs sur lesquels tu n'as pas 100% le contrôle, là. Mettons, de la chance pure, je comprends là, que ça existe peut-être moins, là, mais dans le fond, on peut peut-être le voir comme ça. En terminant, Jean-François, comment est-ce qu'on peut te suivre là, si on veut? Je pense que tu fais de la consultation, toi, personnellement. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? C'est quoi les meilleures façons d'être au courant de tes recherches et tout ça?
Oui, ben, en fait, tout ce qui est recherche, suivez la Clinique du coureur. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas lacliniqueducoureur.com, il y a plein de ressources éducatives qu'on fournit. Suivez-nous pour être au courant des dernières études qui sortent sur la course à pied, les blessures, et ainsi de suite. Puis, d'un point de vue consultation, ben, c'est ça, j'ai ma clinique qui s'appelle MoveMed Physiothérapie, qui est moved.ca. Et je fais de la consultation, même si je me trouve en Colombie-Britannique, je fais de la consultation quand même virtuelle avec, j'ai quand même plusieurs patients au Québec. Donc, ceux qui recherchent un service spécialisé en course à pied, ben, ça me fait plaisir de les voir. Puis, c'est quand même surprenant tout ce qu'on peut faire en virtuel. J'ai commencé à faire ça avec la pandémie, puis j'ai vraiment pris goût, puis je trouve que ce modèle-là fonctionne super bien pour la majorité des patients qui sont pris avec des blessures en course à pied. Donc, voilà pour me suivre. Sinon, sur les réseaux sociaux, je suis AJF Esculier. Donc, JFESCULIER sur Twitter, sur Facebook. Je suis moins fan de Facebook. Je suis pareil, là. Mais si vous voulez voir les études, il faut me suivre sur Twitter.
Cool. Hey, ben, merci beaucoup pour ça. C'était super intéressant. Puis, on a hâte de voir vos prochaines parutions.
Merci beaucoup, Daniel. Ça m'a fait plaisir d'être là. Puis je souhaite une bonne saison automnale de course à tous les gens du groupe Défi.
Merci, Jean-François. Salut.
Salut.